les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio Télévision Suisse,
Radio Canada.
Et bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la librairie francophone. Aujourd'hui, un portrait de notre siècle avec une grande écrivaine franco-canadienne. Un roman pour la jeunesse sur le thème de la fugue, la révolte d'une célèbre personnalité suisse et la BD très attendue d'un artiste phare du Québec. Voici le sommaire de cette édition.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
C'est un événement en librairie à travers toute la francophonie. Le nouveau roman de Nancy Houston explore une nouvelle fois les travers et les moments clés de notre société à travers le siècle. Elle est en plateau avec nous. L'auteur belge Charlie Delwart publie un livre pour la jeunesse qui raconte le désir de fugue d'un enfant et qui fait penser parfois au petit Nicolas. Le bédéiste québécois Guy Delisle revient quant à lui avec l'histoire d'un job d'été étudiant dans une usine à papier. Un extrait en avant-première de son entretien réalisé pour la version télé de la librairie francophone. Nous parlerons aussi d'un livre de poche choc avec le Suisse Jean Ziegler qui s'insurge face au traitement des migrants sur l'île grecque de Lesbos. Et puis nous rendrons hommage à Bertrand Tavernier qui nous a quittés cette semaine. Et voici les libraires qui vont nous accompagner tout au long de ce programme. Josiane Letourneau est libraire au Québec dans la librairie du Square à Montréal. Bonjour Josiane.
Bonjour Emmanuel.
Elle est en pleine forme Josiane. En Belgique, il y a Déborah Damblon, libraire à Bruxelles dans la librairie La Licorne. Bonjour Déborah.
Bonjour Emmanuel.
Vous aussi, tout va bien. En France, c'est Mathieu Colombe, le trublion de l'émission, libraire à Aix-en-Provence, directeur de la librairie Goulard sur le cours Mirabeau. Bonjour Mathieu.
Et bonjour Emmanuel.
Tout va bien? Oui. En Provence?
Oui, oui.
C'est toujours la Provence, Aix-en-Provence.
Ah oui, 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 oui. Il pique bien, bien, là. Il y a du soleil, il fait chaud.
Parfait. Bonjour Yasmina Giaquinto.
Bonjour.
Vous êtes libraire à Martigny, vous dans la librairie du Baobab. Merci d'être avec nous tous les quatre. Vous interviendrez tout au long de cette émission et malgré la crise sanitaire et les pseudo-confinements, les librairies sont ouvertes. On vous encourage donc à aller soutenir ces commerces indépendants, enfin devenus essentiels. Bonjour Nancy Houston.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous. Arbre de l'oubli, c'est le titre de votre nouveau roman paru chez Actes Sud, une nouvelle fresque sur le thème de l'identité qui explore les grands thèmes et drames de notre société. Il y a votre personnage, Shaina, qui explore son chaos intime. Elle est issue par son père d'une famille juive et par sa mère biologique, elle a hérité de son passé de descendante d'esclaves. Que se passe-t-il en elle? Quel est son problème à cette jeune femme?
Je crois qu'il n'y a pas de problème tant qu'elle ne prend pas conscience de son corps, peut-être. Elle grandit dans une famille blanche privilégiée à New York avec des parents très aimants. Elle a été adoptée par l'épouse de son père, Joël, oui. Qui ne pouvait pas porter un enfant. Et donc tout se passe très bien jusqu'à l'adolescence à peu près. Et là, entre les petites chippies à l'école qui lui demandent pourquoi elle ne ressemble pas à ses parents, elle commence à comprendre qu'elle a vraiment une autre fibre en elle, quelque part. Elle n'a aucun moyen de remonter cette filiation généalogique.
Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut vraiment comparer, comme vous le faites, Nancy Houston, la Shoah et l'esclavagisme avec leurs millions de morts respectives?
Mais l'esprit humain est là pour comparer. Ensuite, comme ces deux identités qui font partie de cette jeune femme, elle les entend toutes les deux et ces identités se chamaillent entre elles et sont parfois dans des histoires de concurrence. Nous, on a plus souffert que vous.
Oui,
nous, on a plus souffert, mais c'est toujours la même personne qui parle.
Oui, d'ailleurs, il y a un dialogue intérieur dans votre roman qui, de façon un peu brutale, compare les morts dans les plantations et les morts dans les camps. Avec cette phrase énoncée par la partie juive de la pensée de Shaina, elle dit « Nous, ils nous ont tués à la tâche, puis ils nous ont tués tout court. Notre travail était dénué de sens, au moins le vôtre a fait débuter la révolution industrielle et contribué au bien-être général de l'humanité. »
Et l'autre voix répond, mais elle a quoi de si merveilleux?
C'est ça, l'humanité, ouais. Les esclaves ont-ils été plus utiles à l'humanité que les juifs, Nancy Houston? Parce que c'est ce qu'elle dit, là.
Mais ce n'est pas un livre dans lequel j'exprime des opinions. Ce serait une catastrophe pour un roman si j'exprimais des opinions. Elle est déchirée entre ces différentes voix. Je me rappelle Romain Gary dans la danse de Genghis Khan, il y a des passages un petit peu comme ça. C'était quelqu'un qui avait un souci de ne pas seulement s'occuper des souffrances des gens qui étaient du même groupe que lui. Il y a des concours comme ça chez lui. Il dit finalement, ce sont les Juifs qui gagnent parce qu'on a fait du savon avec leur chair, avec leur peau.
Ouais.
Donc ça, c'est imbattable.
Oui, mais alors, vous êtes étonnante, Nancy Houston, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, vous dites ça, c'est un roman, donc j'ai le droit de tout faire. Et vous avez raison, en plus. Sauf que, ce qui est troublant avec vous, c'est que vous analysez le monde et la société avec un regard plutôt perspicace, hein, vraiment, mais qui mériterait parfois plus de profondeur. Vous imaginez que ce que vous écrivez, parfois, ça peut choquer ou pas ?
Il y a des choses qui choquent, je ne sais pas.
Parce que, en fait, vous ne racontez pas seulement des histoires fictives, vous appuyez sur l'histoire avec un grand H.
L'histoire est très choquante, c'est vrai.
Oui,
ça,
oui,
c'est vrai.
Oui.
L'histoire est très, très choquante.
Oui. Alors, quand on compare comme ça les morts des plantations et les morts de la Shoah, est-ce qu'on peut vraiment le faire ? C'est la question que je me suis posée tout au long du livre. Hein. C'est pour ça que je vous la pose tout de suite.
Mais ce n'est pas une question. Le cerveau humain est fait pour comparer. Le cerveau humain est fait pour ça. Je pense que si une personne, il y a beaucoup de personnes qui correspondent à cette description, moitié juif, moitié africain-américain, par exemple, je crois que probablement, si vous les interrogez, toutes ces personnes, ça leur est arrivé de se demander lequel de leur peuple était le plus à plaindre, lequel donc de leur partie d'eux-mêmes avait plus le droit d'être plainte. Ensuite, elle n'est pas uniquement toujours dans la plainte, Shaina.
Non, c'est vrai. C'est une résistante, une combattante.
C'est une de ses pages, une page de son journal où elle expérimente, elle essaie de noter des pensées qui lui passent par la tête.
Alors vous explorez comme ça la grande histoire, je le disais, Nancy Houston, avec vos nombreux personnages. Vous abordez les thèmes de la société, le végétarisme, la cause hippie, la maltraitance des animaux, l'homosexualité et la gestation pour autrui, la GPA. Shaina est née par ce procédé. Elle souffre d'ailleurs de ne pas connaître sa mère biologique, ce qui, à vous lire, accentue son mal-être entre son héritage génétique et sa naissance par GPA.
C'est-à-dire qu'elle va s'obséder un petit peu là-dessus. Elle va se comparer aux enfants qui sont nés des femmes dans les plantations qui étaient engrossées par viol. Vous savez qu'il y a eu probablement plus d'un million de conceptions de ce type parce que quand on a interdit la traite négrière, la seule façon de maintenir et d'augmenter la population des esclaves, c'était d'engrosser les femmes marrons, comme je les appelle.
Oui, vous distinguez les marrons et les beiges.
Oui, je préfère marron et beige que noir et blanc, que noir et blanc, d'abord, c'est très faux, et ensuite, c'est très extrême, c'est très métaphorique, ça amène à toutes les métaphores malheureuses que nous connaissons, où le noir est dévalué, le blanc est survalué, donc c'est un peu ridicule. Toutes ces femmes qui ont porté un enfant, dont elles savaient à l'avance qu'elles allaient le quitter, en être séparées. Pour Shaina, c'est une sorte de catastrophe d'imaginer que c'est comme ça qu'elle a commencé son existence sur Terre.
Oui, c'est-à-dire que la mère est obligée de désaimer son enfant. C'est ce que vous décrivez
aussi. Exactement.
Et ça, c'est dur.
Oui, beaucoup de choses se passent mal quand on vit avec ses parents biologiques aussi. Hein. Ce n'est pas du tout un livre qui est fait, par exemple, pour dénoncer d'aucune manière la gestation pour autrui.
Parfois, ça se passe très bien. Hein.
Parfois, ça se passe très bien. Mais
souvent même.
Et parfois, souvent même, les familles soi-disant normales qui restent ensemble, ça se passe très mal.
Ça se passe très mal, exact. Bon, allez, on va voir du côté de nos libraires. Hein, qu'attendez votre nouveau roman, Nancy Houston ? On va commencer par la Belgique ou la Suisse ? Vous voulez commencer par qui ?
Comme vous voulez.
La Suisse, Yasmina Giacinto est un peu mesurée, je crois. On va commencer par le moins bon. Allez, Yasmina, c'est à vous.
Oui, les personnages me sont restés assez étrangers. Malgré la qualité de votre narration et votre écriture à la plume fine qui vous identifie si bien, j'ai eu beaucoup de peine à vous suivre dans ce roman choral. Et je m'interroge encore sur ce qui m'en a empêché. Est-ce qu'il y avait trop de sujets abordés, trop d'allées et venues entre ces trois personnages ? Et je suis malheureusement passée à côté de cet arbre de l'oubli.
Il y a beaucoup de personnages, Nancy Houston. Il y a beaucoup d'allées et retours. On va voir du côté de Déborah en Belgique qui n'est pas du tout d'accord avec sa collègue, Déborah.
Mais pas du tout d'accord, Emmanuel. Moi, j'ai tout compris, je me suis pas perdue. Vous êtes merveilleuse, Nancy Houston, parce que, comme toujours, je trouve que vous racontez des histoires à hauteur d'humain. Et vous avez ce talent extraordinaire, je trouve, de partir de l'hyper quotidien pour nous mener à l'universel. Aux universels, j'ai envie de dire, après ce que vous avez dit tout à l'heure. Et on entre dans vos romans en délicatesse. C'est du vrai, c'est du très très beau roman pour moi. Une splendide fresque impressionniste, où de près on voit chaque coup de pinceau, et puis dès qu'on recule, l'ensemble apparaît et c'est limpide. Bref, j'ai adoré.
Alors c'est vrai que ce livre, il fait penser un peu à Ligne de faille. Tous ceux qui ont aimé Ligne de faille vont adorer cet ouvrage-là. C'est votre histoire, ça, Nancy Houston, d'explorer l'identité, d'explorer les travers de la société, la grande histoire, d'entremêler tout ça.
Moi, je dirais que c'est plutôt le goût de la plupart de mes lecteurs, parce que depuis Ligne de faille, j'ai publié 3 livres qui sont très différents,
très
sur
différents.
Des thèmes du genre les installations pétrolières, Danse noire, c'est un livre sur la capoeira.
Des nouvelles aussi, dont on avait parlé
ici. Sur Montréal, ici. Québec, sur le Brésil, et Lèvres de pierre sur Pol Pot. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est que quand je reviens à un thème plus familial, les lecteurs s'écrient tous « Ah, enfin, un roman de Nancy Houston, mais j'en ai fait plein d'autres. »
C'est vrai.
C'est un peu comme les Beatles à qui on demandait toujours de chanter « Yesterday ».
Oui. Et vous préférez les Rolling Stones, non? Non? Si?
Complètement.
Et oui, vos personnages aussi dans le livre, écoutez. Vous avez dansé sur cette musique comme Shaina, comme Lily Rose surtout, la mère de Shaina.
Probablement.
Probablement. Il y a donc Lily Rose, la maman de Shaina, qui a été victime de sévices sexuels à 8 ans et à 13 ans, par son prof de chant et par son père. Et ce traumatisme va la pousser à vivre des expériences plus tard, à se libérer aussi par des projets artistiques. Et vous semblez défendre l'idée que les abus sexuels sont à l'origine des vocations artistiques.
D'un certain nombre de femmes. En tout cas, Lily Rose est convaincue que c'est... Elle est très frappée par la fréquence de ces abus dans l'enfance des grandes artistes femmes. Elle écrit une thèse là-dessus.
Oui.
La création artistique est quelque chose qui met en scène les failles de toute manière. Et peut-être que si on peut être prédisposé si on a eu une coupure radicale entre soi-même et son corps, comme c'est le cas quand on subit ce genre de gestes. Mmh.
La création littéraire vous a aidé, vous, Nancy Houston?
Bien sûr, ça m'a aidé, bien sûr. Ça, et tout ce que je peux dire quand j'entends des critiques comme celle de la libraire suisse, et je fais de mon mieux, c'est tout ce qu'on peut répondre. Je ne peux pas dire « Ah bon, je vais essayer de faire mieux la prochaine fois, excusez-moi, pardon. »
Non, mais c'est juste que tous les livres ne peuvent pas plaire à tout le monde. Déjà.
Exactement.
Et même ce que vous faites, même si on est fan de vous, on peut passer à côté de certains livres.
Il faut lire les livres qui vous aident à vivre. C'est notre seul espoir, c'est que ce qu'on écrit peut aider les gens à vivre.
Ouais. Alors il y a ce pont aussi entre l'histoire des États-Unis et les volets historiques de l'Europe, et en fait c'est ça qui vous a construit, Nancy Houston. Ça a construit votre identité aussi, ce pont-là, entre l'Amérique et l'Europe. C'est ce que vous êtes?
Je suis mon histoire, effectivement.
Vous êtes un peu Shaina?
Oula, certainement pas.
Non.
Certainement pas.
Sur la fin, on va pas tout vous raconter, mais sur la fin, avec l'espoir.
Avec l'espoir, je crois que j'en ai moins qu'elle.
Bon,
elle
est jeune. Bon, lisez ce livre, vous en saurez sans doute plus sur ce personnage et peut-être sur Nancy Houston, Arbre de l'oubli, paru chez Actes Sud, fidèle maison d'édition. Merci beaucoup, Nancy Houston. Vous restez avec nous. On parlera de Bertrand Tavernier avec vous pour notre hommage à la fin de l'émission. À suivre, la nouvelle BD du Québécois Guy Delisle et la révolte du Suisse Jean Ziegler. Avant cela, voici le duo franco-congolais Kolinga.
Na memi mokilie.
C'était le duo franco-congolais Kolinga.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
L'auteur de BD québécois Guy Delisle publie son nouvel album et c'est un événement. Beaucoup de fans attendaient cette publication. Il sera dans la version télé de la librairie francophone sur RTS2 en Suisse et ici RTV au Canada ce lundi 29 mars en deuxième partie de soirée, sur RTBF La 3 en Belgique mercredi 31 mars et sur TV5 Monde dimanche 4 avril dans une semaine à midi. Voici pour vous et pour la radio un large extrait en avant-première. Bonjour Guy Delisle.
Bonjour.
Merci d'être avec nous Guy, après Chronique de Jérusalem, Fauve d'or du meilleur album à Angoulême en 2012, Chronique birmane, Le guide du mauvais père ou encore Louis à la plage, vous publiez Chronique de jeunesse. Toujours aussi passionnant, ludique et subtil. À 16 ans, vous avez votre premier job d'été dans une usine à papier de Québec, un lieu incroyable qui fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est un monument de l'architecture et puis une petite société interne aussi.
Oui, c'est un petit monde, ouais. Il y a une culture, on peut même parler de ça, parce que quand on est là-bas, moi j'étais que pour l'été, donc j'arrivais chez ces gens qui sont des ouvriers, qui passent l'année, qui passent l'hiver, et qui voient arriver les petits jeunes comme ça, qui travaillent 2-3 mois l'été. J'en ai fait trois étés, et ça a assez gravé mon esprit, ma mémoire, que régulièrement ça revenait à mon esprit, et je me suis dit un jour, il faudrait que je fasse quand même une bande dessinée là-dessus. Ça m'a pris un petit moment, mais...
Alors vous y faites des rencontres étonnantes, des gars qui vivent comme ça toute l'année grâce à ce travail épuisant. C'est l'apprentissage de la vie pour vous. Les horaires de travail sont donnés le jour J. Il y a des cabines insonorisées pour reposer ses oreilles. C'est dur, mais vous semblez quand même y prendre goût.
Oui, c'était intéressant à 17 ans d'être dans un environnement d'usine, de voir ce que ces gens font toute l'année. Et après, quand on retourne aux études, parce que moi, évidemment, c'était entre mes années d'études, oui. Je gagnais de l'argent à l'usine pour payer mes études. Voilà, je savais à quoi servaient ces études et ce que je pouvais éviter de faire après. Et d'ailleurs, au début, je pensais faire ce livre un peu pour mon fils et lui dire, moi, à ton âge, je travaillais à l'usine et j'avais penser avoir comme titre au début « Moi, à ton âge, trois petits points ». Mais finalement, ça a évolué.
C'est ouais, c'était un peu égocentrique, « Moi, à ton âge ».
Oui, c'était aussi faire le vieux papa qui arrive et qui dit « Voilà, moi, à ton âge, et je travaille à l'usine
». C'est ça. On voit la machine, cabine insonorisée, entre les machines, comme ça, pour souffler un coup. C'est les temps de pause. Alors, il y a des textures comme ça, des sensations avec la pâte à papier. Alors, c'est étonnant, Guy Delisle, parce que vous dites que la pâte à papier... C'est assez agréable au toucher. C'est quelque chose que l'on prend comme ça, qui est un peu chaud. Vous aimez ça? Qu'est-ce que ça, alors là, ça donne, la pâte à papier dans les mains?
C'est la première transformation du papier. C'est d'abord une pâte. Donc ça, c'est dans la partie humide de la machine, qui est comme une grande locomotive et qui est séchée. Et au bout, c'est la partie sèche. Donc quand, de temps en temps, on allait dans la partie humide, parce que des fois, ça cassait aussi là-bas, le papier, c'était comme du papier crépon, qui était humide et chaud. Et je me rappelle que je travaillais là, il était 4 heures du matin. On transportait ces espèces de gros doudous chauds. Et j'avais envie de m'endormir et de plonger dans ce coton et chaud et humide et de m'endormir là pour le reste de la nuit. Ouais.
Alors dans ces rouleaux, parfois certains se sont fait happer. Il y a eu des accidents comme ça.
Ouais. Mais c'est aussi le stress d'être dans ces grosses machines et surtout quand on a un peu d'imagination parce que il y a des rouleaux qui sont en granit qui tournent contre des rouleaux qui sont en caoutchouc et on s'imagine que si on met un doigt là-dedans et là on s'imagine le reste qui passe.
Oui, c'est ça.
Et voilà.
Le papier devient tout rouge. Hein,
vous c'est ce que les vieux disaient. Alors je me demandais si c'était un peu une légende, mais ils disaient ah oui à l'époque le papier est devenu tout rouge, ça faisait froid dans le dos quand même.
Alors vous qui voulez être dessinateur, Guy, à cette usine de papier vous plonge à la source du livre et des journaux et vous racontez comment le Canada a exploité le bois pour faire du papier avec la drave. Un métier très dangereux, le plus dangereux du monde selon vous. Il y a aussi le flottage, alors on voit cela sur vos dessins, le flottage, une technique économique mais très polluante. La drave c'est ça, c'est-à-dire qu'on amène les rondins de bois, enfin les troncs.
Sur la rivière.
Oui, c'est ça fait partie du folklore québécois, la drave. Il y a beaucoup de légendes là-dessus, sur ces gars qui l'hiver n'avaient pas de boulot, donc ils s'engageaient pour faire de la drave. Quand le bois était coincé dans certains estuaires, ils mettaient de la dynamite et il fallait quand même courir sur des billots de bois pour pas exploser. Donc c'était extrêmement dangereux. Et curieusement, c'était très polluant. Donc à un moment, ça s'est arrêté.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait,
le bois se décompose. Et il y en a tellement que il y a quelque chose qui s'échappe du bois et qui tue les poissons et qui tue toute la faune et la flore.
Ça couvre le fond du fleuve.
Jusqu'à 20 mètres de profondeur.
Et vous le dessinez d'ailleurs, il y a comme ça une coupe, comme on dit, une coupe,
ouais.
Avec le fleuve, et il y a comme des sédiments, des morceaux de bois qui se déposent au fond du fleuve et qui empêchent la faune et la flore de survivre.
Et ça a duré quand même assez longtemps. Je crois que ça s'est arrêté en 95, parce qu'évidemment, c'était extrêmement économique de mettre des billots de bois sur la rivière et elle descendait tout seul au lieu de le faire transporter par train. Donc maintenant, ça se fait plus, c'est arrêté et c'est une légende maintenant, les draveurs.
La librairie francophone.
L'entretien intégral de Guy Delisle à écouter et à voir donc dans la version télé de la librairie francophone à partir de lundi sur les chaînes de télévision francophone. Nous serons aussi avec Bessora, Boris Cyrulnik et Philippe Delerme. Toutes les infos et horaires sur notre site internet et sur mon compte Facebook. Les coups de cœur et les coups de gueule des libraires. On commence tout de suite avec un coup de gueule en Suisse, Yasmina Giaquinto.
Oui, il m'arrive parfois d'avoir des commentaires qui me hérissent le poil, du genre « Quelle chance vous avez de pouvoir lire tous ces livres durant vos heures de travail !» Eh ben, désolé de briser un fantasme, mais non, il ne m'est jamais arrivé de lire un roman durant mes heures de travail.
Ouais.
Et être libraire, c'est une centaine de métiers en un seul mot. C'est surtout une passion qui va au-delà des horaires de présence. J'invite donc les curieux à venir découvrir de l'intérieur ce qu'est le quotidien d'une librairie indépendante. Et je vous l'assure, vous ne franchirez plus notre porte de la même façon.
Mais en même temps, lire fait partie de vos heures de travail, de fait. Bah oui.
Oui, bien sûr.
Oui. Bah oui, bien
Il y a 24 heures dans une journée.
Un coup de cœur en Belgique, Déborah Damblon.
Un coup de cœur pour un livre qui s'appelle « Des mots en fleurs », Emmanuel. Parce que si vous aimez les mots, eh bien ce livre est pour vous. Mmh. Si vous aimez les jardins, ce livre, il est aussi fait pour vous.
Ouais.
Et si vous n'avez pas de jardin, c'est pas grave, c'est un jardin à mettre dans la poche. Parce que pendant toute une année, Monsieur Mo va cultiver son jardin et il va se jouer des mots comme on fait des bouquets. Et il va nous donner envie d'en faire pareil. Et c'est juste absolument délicieux.
Des mots en fleurs aux éditions Côte, 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 c'est ça?
Ben oui, c'est ça, Côte. C'est de Marie Collot et Caroline Van der Stappen,
c'est
aux illustrations.
Merci Déborah. En France, un coup de gueule, Mathieu Colombe, à Aix-en-Provence.
Oui, on va crier sur Sorcière. Alors, vous vous rappelez, Emmanuel, qu'il y a quelques années, Mona Chollet avait sorti un essai qui s'appelait Sorcière.
Pas du tout.
Elle a sorti un essai qui s'appelait Sorcière. Avec ce concept très fort, justement, de la sorcière, comme femme à la fois inquiétante et forte, et grande avancée pour le féminisme. Et cet essai a tellement bien marché que maintenant, Sorcière est devenu, semble-t-il, un argument de vente. Et encore une fois, la cause féminine a été sacrifiée sur l'autel du profit. Et pourtant, moi, il me semble que Mona Chollet n'a pas écrit cet essai pour vendre des recettes de tisane ou des tarots de Marseille.
Vous connaissez Mona Chollet, Nancy Houston?
Oui.
Oui? Ah, et donc ça vous plaît?
Oui, j'aime certains de ses livres plus que d'autres.
D'accord.
Et elle aime certains de mes livres plus que d'autres aussi.
Comme ça, c'est équilibré. Allez, on termine avec un coup de cœur au Canada, Josiane Letourneau.
Oui, comme Déborah, je fais un petit détour par la nature avec Le mouvement des couleuvres de Gabriel Roberge aux éditions du Passage. Alors, un recueil délicat et aiguisé que j'ai lu avec plaisir de par cette nature qui est omniprésente et qui répond aux gestes où l'animalité est immédiatée dans toutes les lumières du jour et dans le quotidien. Eh bien, elle rend Gabriel Roberge à la nature toute sa place et en ce début de printemps, c'est un moment parfait pour lire une poésie aussi posée mais jaillissante.
Vive le printemps et la poésie. D'ailleurs, il y a le printemps des poètes pour ça, mais ça peut continuer, bien sûr, il faut continuer tout le printemps à lire des poèmes et après encore. Merci beaucoup Josiane, Le mouvement des couleuvres, c'est aux éditions du Passage. Et voici notre séquence livre de poche avec le Suisse Jean Ziegler.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Bonjour Jean Ziegler.
Bonjour.
Vous êtes conseiller du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, ancien rapporteur spécial de l'ONU pour le droit à l'alimentation, et vous publiez Lesbos, la honte de l'Europe aux éditions du Seuil. Lesbos est une île grecque située au large de la Turquie, dans la mer Égée, qui a été choisie comme lieu d'accueil pour les réfugiés venus de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan, du Pakistan ou même d'Afrique. Au départ, c'était un lieu destiné au filtrage, mais c'est très vite devenu un désastre humanitaire, Jean.
Oui, c'est effroyable ce que j'ai vu à Lesbos, qui est le plus grand camp de réfugiés d'Europe d'ailleurs. Il y a 28 000 personnes maintenant dans une ancienne caserne qui était faite pour 2 000 personnes. Derrière des barbelés, des familles, des enfants, des hommes, des femmes, comme vous et moi, qui sont là depuis 3, 4 ans, derrière des barbelés, détenus dans des conditions d'hygiène effroyables. Une toilette, une sorte de cabine métallique pour plus de 100 personnes, tout le temps inutilisable, puante, les conditions d'hygiène sont terribles, la gale partout, la nourriture insuffisante et souvent immangeable.
Avariée, souvent, vous dites dans le livre.
Avariée. Et ce camp où les gens maintenant sont tenus comme des animaux, ce camp a été fait pour un premier camp d'accueil, de rétention, d'enregistrement. Aujourd'hui, c'est devenu...
C'est un désastre humanitaire, Jean Ziegler.
Et
c'est une île magnifique à l'origine. Alors du coup, la tension monte à Lesbos de toutes parts. Pour contenir l'afflux, on a décidé de provoquer la terreur et de faire passer le message pour que les candidats à l'exil renoncent et restent dans leur pays. Il y a des gardes-côtes grecs, turcs et Frontex. Alors Frontex, c'est l'agence européenne chargée de contrôler les frontières. Et ils empêchent comme ça les bateaux d'accoster en tirant sur les bateaux. Alors le commandant de Frontex dit, vous le rapportez dans votre livre, « Notre tâche n'est pas de secourir les naufragés, mais d'assurer la sécurité des frontières. »
C'est une vision du réfugié qui est totalement perverse, qui s'est pervertie en cours de route maintenant, sous la pression des mouvements populistes en Europe. Le réfugié comme ennemi.
C'est ça.
Moralement, les fondements moraux de l'Union européenne sont érodés si on refuse le droit d'asile et si on crée des conditions inhumaines dans les camps d'accueil. Et deuxièmement, politiquement, ça ne fonctionne pas. Si vous êtes bombardé en Irak ou comme maintenant en Syrie, et vous avez encore des enfants survivants, vous partez, quelles que soient les nouvelles de Lesbos. La stratégie de la terreur est moralement détestable. Mais en plus, elle est politiquement inefficace parce que les soldats continuent.
Oui, ça continue. Et c'est vrai que pour étayer vos propos, Jean Ziegler, et vos missives aussi, vous citez la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention relative aux droits de l'enfant. Toutes les deux imposent le droit de bénéficier d'un asile et la protection des enfants sans aucune condition, sans aucune restriction.
Ce livre, je suis un peu arrogant de dire ça, voulait être une arme pour cette insurrection des consciences qu'il faut provoquer en Europe. Nous devons obtenir de nos gouvernements qui changent radicalement leur perspective en politique.
Ouais, c'est ça. Et notamment l'Europe.
Il faut accueillir celui qui cherche protection.
Et il y a des pays.
Ne pas le refouler.
Il y a des pays européens que vous citez, Jean Ziegler, comme la Pologne, qui refuse avec la Hongrie, la Bulgarie et la Roumanie de participer à la relocalisation des réfugiés. Et la Pologne a dit, je cite, que relocaliser ces réfugiés, c'est une menace pour la pureté ethnique du pays.
Ça, c'est un vocabulaire nazi. Vous avez tout à fait raison.
Oui, complètement.
C'est le ministre, le premier ministre polonais qui a dit « Nous n'accueillerons pas de réfugiés parce que nous devons sauvegarder la pureté ethnique de la Pologne. »
Incroyable.
Alors, il y a 8 pays de l'Europe de l'Est qui vivent des subventions, des milliards, 63,8 milliards l'année dernière, qui vivent des subventions, des
versements
de l'Union européenne et qui refusent, par des motifs purement racistes, de participer au sauvetage des réfugiés. Donc il faut leur couper les subventions.
Mais l'Union européenne les a attaqués en justice d'ailleurs.
Oui,
ils ont été condamnés, mais ça n'a rien fait.
Ça n'a rien fait,
c'est
vous avez
incroyable.
Tout à fait
c'est
raison.
Fou.
La Cour,
chacun fait ce qu'il veut. Quoi.
La Cour, mais justice européenne les a condamnés. Mais il faut leur couper immédiatement tout versement pour les forcer d'accueillir les réfugiés.
Alors dans ce livre, vous lancez un appel, Jean Ziegler, on va terminer avec cela. Vous dites que, comme l'avait dit Benjamin Franklin à Danton, un jour dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés à Paris, dans un fameux restaurant, « Il faut utiliser le pouvoir de la honte, et ce pouvoir, nous l'avons tous. » Alors c'est quoi le pouvoir de la honte? Qu'est-ce qu'on peut faire là, Jean Ziegler, concrètement, là, maintenant, aujourd'hui?
D'abord, je le redis, il n'y a pas d'impuissance en démocratie. Nous avons tous
d'accord,
les
armes. D'accord, ça d'accord. Soyons concrets, Jean. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en sortant de cette émission? Et que peuvent faire tous ceux qui nous écoutent là, à l'instant? Là,
à l'instant, il faut demander l'accueil immédiat des personnes vulnérables, c'est-à-dire des enfants. Ben, il n'y a aucun problème.
Vous par les réseaux sociaux, par des lettres.
Vous utilisez les réseaux sociaux, si vous faites pression sur votre gouvernement. Ce gouvernement, enfin, ou Bruxelles maintenant, a aucun problème d'envoyer des avions, de sélectionner les enfants mineurs non accompagnés, des femmes et hommes malades, etc., enfin, les personnes vulnérables, de les amener, quelques milliers, en Europe, de les soigner, de
d'accord. Les accueillir. Les enfants principalement, bah, c'est ça que vous dites. D'abord, commençons par eux. Parce qu'effectivement, comme vous le dites, il y a des enfants qui essayent de se suicider, oui. Et la plupart des enfants sont séparés de leur famille en plus.
Bien sûr, parce que c'est les seuls survivants, les seuls survivants du monde naufrage. Oui, mais il faut le faire, il faut s'insurger, faire pression sur notre gouvernement, avec tous les moyens constitutionnels que nous avons, pour ce gouvernement envoie l'avion, sélectionne les personnes vulnérables, d'accord. Les amener dans les hôpitaux très bien. Civilisés.
Et le livre de Jean Ziegler, Lesbos, la honte de l'Europe, est paru en poche chez Point. Dans un instant, l'écrivain belge Charlie Delwart pour un livre jeunesse qui décrypte l'idée de la fugue. Si tu as entre 10 et 14 ans et que tu envisages de faire une fugue, reste à l'écoute. Les parents aussi, restez là car vous allez peut-être pouvoir accepter l'idée. Voici la chanteuse française Camille et l'artiste malien Balaké Sissoko dans la librairie francophone. Sissoko avec la chanteuse Camille et ce titre Cora.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Bonjour Charlie Delwart.
Bonjour.
Vous publiez Les Aventures de moi-même, journal de ma fugue, un roman pour la jeunesse. Gaspard a 10 ans et il a l'intention de faire une fugue. Quelle est sa motivation, Gaspard ?
Sa motivation, c'est que ses parents ne l'écoutent pas assez dans son choix de collège à venir. Donc, il est en CM1, en 5e primaire, en équivalent Belgique. Et voilà, il a l'impression qu'on ne l'écoute pas et que donc on ne le considère pas comme un grand. Et donc, il veut montrer la preuve de son évolution en faisant une fugue.
Ouais, c'est ça. C'est qu'il est un peu philosophe, car il part du principe que dans la vie, un enfant doit être pris au sérieux. Le problème des parents, c'est qu'ils voient toujours leur enfant comme le bébé qu'il était.
Exactement.
C'est vrai, ça, oui.
Et comme lui, en fait, il a l'impression qu'il a déjà eu plusieurs marqueurs dans sa vie de quand il a dû arrêter les petits trous, de quand il a dû arrêter de prendre des couverts. Il se fait une liste en se rendant compte que là, c'est juste la continuation de ça. Mmh.
Une fugue, ça s'organise, Charlie Deloire. Et comme le dit l'un de ses copains, on fait toujours une fugue pour que quelqu'un le remarque. Il ne faut pas informer les parents si on fait une fugue.
Oui, après ça, ce qui m'intéressait, c'était de montrer justement l'évolution, enfin le gap qui séparait l'idée de la réalisation et que plus on y pense, parfois moins on le fait. Mmh. Et dans ce cadre-ci, c'est un roman d'aventure presque sans aventure, où l'aventure est justement le fait de répondre à ces questions. Et donc, il n'a pas l'impression qu'il le fait pour le dire à ses parents, mais se pose à un moment la question de se dire, est-ce que je dois leur dire ou non?
Oui.
Et donc, il réfléchit à des mots qui pourraient leur laisser pour pas qu'ils s'inquiètent.
Oui, sauf que comme vous l'écrivez, pour une fugue, on ne prévient pas ses parents, sinon ce n'est plus techniquement une fugue.
Oui, mais ça, il arrive à s'arranger, en fait. Il se dit, ça, c'est la définition de base, mais oui. Au bout du compte, s'ils ne savent pas exactement où est la fugue, ou comment elle a lieu, ou quand elle a lieu, alors il a quand même le droit de le faire.
Alors, attendez, répétez ça.
Si jamais, en fait, techniquement, oui. C'est ça, on peut pas le dire, mais si il ne dit pas à quel jour et où il va, il a le droit de le faire.
Bon, alors, trois questions essentielles se posent, évidemment, chez Gaspard. Lorsque l'on fugue, d'une façon générale, et qu'on est un enfant ou pas, on peut fuguer adulte, c'est où, quand et combien de jours?
Exactement.
Et ça, c'est un vrai problème.
C'est un problème et ça demande de faire aussi un référendum au sein de son école avec sa sœur et ça soulève d'autres questions. Est-ce que quand on part dans la forêt, est-ce qu'il y a des loups, est-ce qu'il y a des ours? Donc, ils se rendent compte que pour répondre à ces questions, il y a toute une série de connaissances, mais qui sont une métaphore des connaissances dont on a besoin pour sortir du nid. Ouais. Plus globalement, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire un roman ou une série, on verra bien ce qui se passe après, sur des moments où on grandit. Traité avec réalisme et humour, parce que c'est, évidemment, c'est pas un manuel pour vraiment apprendre aux enfants à faire des fugues. C'est plus voilà, il y avait un
coup. Bah, j'espère, oui, quand même. Oui. Sinon, il y a tous les parents qui vont raccrocher, qui vont passer à une autre station s'ils ont des enfants dans la voiture ou ailleurs. En fait, restez là, restez là.
Il y avait ce côté,
vous allez voir, ça va bien se passer.
Il y avait ce côté Woody Allen jeune, en fait. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que dans les livres, le peu que j'en connais aussi, j'apprends à lire avec mes enfants qui grandissent, mais souvent, en fait, très vite, ça se passe dans la fantasy ou bien il se passe des choses folles. Moi, je voulais qu'une chose simple, une chose simple comme une fugue, soulève 150 pages de questions.
Une fugue, c'est un état d'esprit. C'est une liberté qu'on s'octroie, c'est ça?
Et c'est grandir.
Est-ce que vous avez fugué, vous?
Moi, j'ai fait deux pauvres fugues. Des pauvres fugues, j'en ai fait une d'une heure et puis une d'une heure. Ouais. Non, c'était moins d'une heure les deux.
C'est lamentable.
Ouais. Et puis j'avais mes parents qui m'avaient dit, le jour où tu fais une fugue, préviens-nous. Et donc, voilà, c'était... Après ça, je suppose qu'il vaut mieux peut-être pas la réussir, sa fugue, en fait.
Mais c'est quoi une fugue d'une heure?
Une fugue d'une heure, je crois que c'est vraiment pour mesurer si on vous a vu partir, si vous manquez, si voilà, il y a ce côté très démonstratif ou de volonté d'amour mise différemment.
Vous aviez quel âge?
J'avais 8 ans, 9 ans.
Ah oui, c'est ça, oui, ouais. C'est inquiétant parce qu'on les a sous la main à 8-9 ans quand même. Donc une heure disparue comme ça, c'est inquiétant.
Oui, mais c'était pas, ou même je crois que ça devait être une fugue visible en fait, c'est le moment où j'en vous parle.
Une fugue visible, oui. Vous êtes très particulier, Charlie Deloire. Hein. On savait déjà, avec Data Biographie, vous aviez fait des listes comme ça pour votre crise de la quarantaine, vous avez fait une crise de la dizaine, vous.
Exactement, tous les 10 ans, il faut faire le point.
Bon allez, les libraires ont lu ce petit livre, c'est un vrai roman pour la jeunesse, et pas seulement, moi je l'ai lu avec beaucoup de plaisir, tous les adultes peuvent le lire, c'est très bien fait, et c'est très drôle, et je le disais tout à l'heure, ça fait penser au petit Nicolas, donc c'est plutôt pas mal. La France, c'est le Canada. On va commencer avec Mathieu Colombe, grand enfant à Aix-en-Provence.
Toujours grand enfant. Et oui, moi aussi, j'ai bien aimé, parce que c'est un appel à l'aventure, la vraie, mais pas que, parce que si effectivement on rit, on ne s'écarte jamais du sujet qui, à mon sens, est le principal, c'est la tout aussi vraie angoisse de passer du monde de l'enfance aux prémices de l'âge adulte. Et effectivement, ce petit roman est autant à conseiller aux parents qui ne comprennent plus le rejeton que l'inverse.
Le Canada, Josiane Letourneau.
Eh bien, la belle surprise est d'être accueillie dans ce roman par une citation d'Henry Miller, rien de moins. Mais c'est une ouverture, en fait, qui se révèle, je dois dire, extrêmement bien choisie. Parce que ce roman-là, irrésistiblement drôle, nous offre aussi ces petits moments de psychologie, de philosophie, d'introspection. Et il nous montre, en fait, que l'aventure la plus incroyable et riche qui soit, ben, c'est de grandir. Et j'ai adoré.
Ah bah tant mieux, ça fait plaisir.
Bah, vous avez séduit les libraires. Qu'est-ce qu'on est censé faire quand on fugue, Charlie Deloire, concrètement?
Mais concrètement, c'est la question qui se pose, en fait. Ils se disent, d'abord, est-ce qu'on est censé en profiter? Indépendamment de tout ce que ça comporte, justement, d'affirmation de soi, est-ce qu'il est censé... Il anticipe le moment de le vivre. Ce qui n'a pas de sens et qui ne fait que le retarder, parce qu'à un moment, en fait, la logique du livre s'éteint aussi. À un moment, il faut y aller, il faut partir. Donc, en fait, ça m'intéressait que le livre s'arrête aussi sur ce départ et qu'on imagine la suite. C'est ce qu'il a pu emmagasiner comme perspective.
Et Gaspard dit vouloir une fugue sereine.
Ça, c'est incroyable. Oui, c'est-à-dire, c'est régler toutes les questions, mais ça, c'est de nouveau, c'est cette limite, c'est régler les questions qui fait que derrière, parce qu'il imagine que ça peut être un bivouac, donc il voudrait vraiment, en fait, plus il avance, plus il s'en fait une image idéalisée.
Ouais, il dit, vous écrivez, certains mettent peut-être juste 2-3 affaires dans un sac, claquent la porte et puis marchent tout droit devant et ils verront bien ce qu'ils feront sur le moment où c'est juste des histoires qu'on raconte. Moi pas, je suis prévoyant. Perfectionniste. Et je ne sais pas combien de fugues je ferai dans ma vie, j'ai envie de bien la faire. Que ce soit une chouette fugue, pas une fugue ratée, c'est un projet, et un projet, ça se prépare.
Oui, c'est sérieux pour lui. C'est sérieux, mais de nouveau, je crois que l'idée de la fugue devient une sorte de frontière entre ceux qui le feraient facilement et qui partiraient comme ça, et ceux qui l'intellectualiseraient. Mais vraiment, ça m'amusait de creuser un personnage qui a une logique de question, ou un dispositif de question, et qui même fait participer toute sa vie de son entourage là-dedans, en fait. Il a envie d'aller voir ce que pensent les autres, où ils iraient. Mm-hmm. Certains nous disent, va dans une ville, l'autre à la campagne, va sous un pont, va...
Sur une île.
Oui.
Ça sert le dire, va sur une île déserte. Facile.
Exactement. Et puis, de nouveau...
Va au Brésil. Voilà. Mais je pars deux jours. Mais même deux jours, c'est bien le Brésil.
C'est mieux.
Quel conseil donneriez-vous aux enfants qui nous écoutent, Charlie Delwart?
De lire, avant tout. C'est-à-dire que
Et de ne pas fuguer.
Et de ne pas fuguer, bien évidemment. Ce qui est donc la morale de cette histoire. Non, mais c'est vrai.
Pas tant que ça, hein.
Non.
On peut pas tout raconter, mais pas tant que ça.
Non, pas tant que ça, mais d'abord, je trouve que, de nouveau, c'est ce que doit être, à mon avis, ce que j'avais envie de faire, en tout cas pour un livre pour enfants, c'est que ça soulève des questions, et à la fois de l'humour, il y a tout, on n'en parle pas, mais j'ai eu la chance d'avoir Roland Badel comme illustrateur,
ouais.
Qui vraiment, en fait, l'idée, c'est de ponctuer, en fait, de blagues, de réflexions, mais de nouveau, en fait, avec ce que tout a de grave et de léger aussi là-dedans.
Mais surtout, les parents de votre histoire, ils ont une attitude exemplaire.
En fait, ils se rendent compte
qu'ils sont à l'écoute de leur enfant.
Voilà. Mais alors, du coup, ils essaient de cadrer. Donc, je crois que l'idée, c'est de...
Dites pas tout.
Voilà. Non, l'idée, c'est juste de... En tout cas, quand il y a un désir ou un projet sérieux, c'est d'arriver à le rendre réalisable et qu'il soit encore de son âge, pourtant.
Voilà. Un chouette livre. Vraiment, comme on dit en Belgique. Non, mais vraiment. Merci. Charlie Delwart, vous publiez aussi un nouveau roman, Le Grand Lézard, aux éditions Flammarion, qui raconte la crise de la quarantaine de Thomas, producteur de cinéma sur le déclin, qui a fait le tour de ses sentiments pour sa femme, qui a eu 2 enfants et qui craque un peu. La nuit, il rêve de choses étranges qui ne vont pas arranger son état.
Oui, c'est un livre sur... donc il rêve toutes les nuits qu'il est nain, et dans ce rêve de nain, il est une meilleure version de lui. Il est plus assertif, ça marche mieux avec sa femme, ça marche mieux avec les femmes, son boulot marche mieux. Moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était de se dire, en fait, il y a des moments, d'abord quand on est en crise, on cherche à éditorialiser le monde, à se dire où sont les signes, on cherche des épiphanies, c'est le chaos, on cherche du sens, on cherche à en redonner. Et ce rêve est un prétexte, comme une sorte de lapin blanc dans Alice au Pays des Merveilles, où son cerveau lui parle, son inconscient. Moi, j'ai eu beaucoup de crises d'angoisse. Je me suis demandé ce que ça voulait dire.
Ah oui, ça, on a su. Ouais. Avec la biographie, vous aviez fait des listes.
Exactement. Hein, et là, d'angoisse. Je me suis dit, en fait, c'est une autre manière de parler de comment, à certains moments, il est utile d'être à l'écoute de son inconscient.
Si vous êtes en crise de la trentaine, la quarantaine ou la cinquantaine, lisez Le Grand Lézard de Charlie Delwart. C'est un peu ça, avec data biographie, qui est un peu l'autre versant. C'est un peu complémentaire, je trouve.
Oui, c'est comme une face A, une face B.
Ouais,
c'est un dispositif de questions que j'ai voulu cette fois incarner dans un personnage.
Bon, il faudra éditer les deux en poche, pourquoi pas, mélanger.
Très bien.
Je vous ai donné l'idée. Flammarion, hein, vous nous écoutez. Merci Charlie Delwart.
Merci à vous.
Les aventures de moi-même, journal de ma fugue, illustré par Ronan Badel, est paru chez Flammarion Jeunesse. On termine cette émission avec notre hommage à Bertrand Tavernier, mort jeudi à l'âge de 79 ans. Grand réalisateur et auteur de plusieurs livres de référence sur le cinéma, Tavernier était aussi un passionné de jazz et de littérature. Grand amateur de western, il avait initié une collection de livres composés de romans américains méconnus à l'origine des plus grands films. Il était venu en parler à notre micro. Peut-on dire que c'est ce qui vous a donné envie de devenir metteur en scène, oui. Le western?
Oui, bien sûr. Oui, 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 je crois que c'est à partir de films de John Ford que j'ai compris de manière très naïve que être metteur en scène, c'était ce que faisait Ford, c'est-à-dire qu'il écrivait avec des images comme certes, les auteurs que je lisais à l'époque, Stevenson, Jules Verne, James Oliver Curwood, écrivaient avec des mots. Ouais. Donc je voyais dans les westerns de Ford que j'avais vus à l'époque, je voyais ces ciels avec ces nuages, je voyais les cavaliers qui se détachaient sur la ligne d'horizon. Quand j'avais 14 ans, 15 ans, j'ai écrit des vagues synopsis de western qui devaient être complètement infantiles.
En tout cas, dans les années 60, au tout début des années 60, Bertrand Tavernier, vous montez un ciné-club avec des amis pour promouvoir d'ailleurs ce genre de film américain. Oui. Et vous allez ensuite faire des interviews, écrire des livres, mais vous n'avez jamais osé tourner un western.
Non, j'ai eu un projet, mais qui s'est pas fait. C'était La Sœur Perdue, une adaptation d'une nouvelle de Dorothée Johnson, dont les œuvres ont été traduites en France. Non, parce que je me sentais un metteur en scène français, que j'avais envie de parler de sujets français.
Oui, en même temps, les fresques que vous en avez réalisées.
Mais le western, on peut en voir des traces dans.
Alors oui, justement.
Dans certains de mes films.
Dans Coup de torchon, moi, je dirais qu'il y a une petite philosophie western.
Oui,
avec
oui,
la vengeance comme ça. Cette histoire de vengeance.
Bien sûr, bien sûr.
À l'époque coloniale.
Bien sûr. Et puis, dans l'utilisation des paysages, Le juge et l'assassin, ou La vie, rien d'autre, ou La princesse de Montpensier. Ouais. D'ailleurs, Jean-Paul Rapneau, après La princesse de Montpensier, m'avait appelé en me disant, mais c'est du John Ford, mais très français. tu as réussi à faire du John Ford français. Mais c'est vrai que les plans de chevaucher de La princesse de Montpensier, moi, je m'éclatais. Ouais. Et tout d'un coup, je retrouvais l'émotion que j'avais eue en voyant des films de Delmer Daves, d'Anthony Mann. Ça, voilà.
Et puis les combats aussi avec Capitaine Conan. Oui, donc il y a un peu de western un peu partout, Bertrand Tavernier, mais vous n'avez jamais osé franchir le pas.
Pourtant, c'est pas osé, c'est pas osé.
Vous auriez pu aller au bout.
Non, non, non.
C'est dommage.
Je n'avais pas envie d'affronter les studios. Je faisais des films que je parvenais à contrôler de A à Z en France. Comme dit Ingmar Bergman, je ne vois pas pourquoi j'échangerais le fait de tourner avec une petite équipe de gens qui sont mes amis contre une énorme équipe de gens qui vont me descendre. C'est pour ça quand il avait refusé d'aller à Hollywood. Oui. Je n'ai jamais rêvé, moi. Ça ne m'a pas fait rêver d'être un metteur en scène hollywoodien.
Alors, le western, vous le dites, finalement, c'est une exploration des côtés sombres de la société américaine. Cette opposition permanente au monde sauvage incarné par les Indiens et à la civilisation incarnée par les bons cow-boys, ça ne vous a jamais dérangé, vous, ça ?
Le western a abordé ça de tas de manières différentes. Il y a des westerns racistes.
Il y en a aussi
plus qu'on le dit, qui ont décrit l'autre côté des choses. Mais le western, c'est pas seulement ça. Le western, c'est en effet l'exploration entre le monde civilisé qui est en train de détruire le monde sauvage. Et ça, par exemple, des auteurs l'ont abordé très tôt dans La captive aux yeux clairs, le roman d'Abbé Guthrie, et puis dans le film qui en a été tiré. Mais c'est aussi, ça parle de la création de nouveaux territoires, donc de la loi et de l'ordre, de l'instauration de la justice. Et oui, alors, à l'intérieur de ces thèmes, il y en a qui sont abordés de manière réactionnaire, conservatrice, et d'autres qui sont abordés de manière très progressiste. Mais dès le cinéma muet.
C'est quand même la conquête de l'Ouest, Bertrand Tavernier, le western. C'est quand même le blanc qui porte un regard sur les peaux rouges.
C'est parce que jusqu'à un temps récent, il n'y avait pas beaucoup de cinéastes indiens. Et ces blancs, il y en a qui ont fait des films extrêmement audacieux, extrêmement critique. Vous avez un film de 34 ou 35 qui s'appelle Massacre, qui est un western moderne, où on montre que à l'époque du film, les Indiens sont encore plus maltraités. Et le héros dit « Vous avez commis un triple génocide ». Mais vous le voyez cité, ce film, quand les gens écrivent des bouquins, ils l'oublient complètement. Ils n'ont même pas la curiosité de faire des recherches. Et des œuvres comme ça, il y en a un certain nombre.
Bertrand Tavernier, qui nous a quitté jeudi, grand artiste engagé, passionné, érudit, généreux et d'une grande gentillesse, dans une simplicité rare, on l'a vécu ici même. Il va beaucoup manquer au monde du cinéma. Nancy Houston, vous connaissiez très bien Bertrand Tavernier, vous êtes très émue aujourd'hui.
Je suis émue d'apprendre sa disparition et c'est quelqu'un d'exquis. Je ne peux pas dire que j'étais une proche, mais il est venu, un des moments dont je me souviens vraiment bien, il est venu prendre un verre dans un atelier de peintre. Devant cet atelier, il y avait une travailleuse du sexe qui habitait le perron depuis des années. Et donc, on avait des échanges quotidiens comme ça. Et elle avait décidé de m'appeler Pamela parce qu'elle trouvait que je ressemblais à Pamela Anderson. Non. Et Bertrand Tavernier est tombé par terre de rire. Quand il, oui. Littéralement, il est tombé de sa chaise quand il dit ça. Il était adorable. Mm. Et au-delà du périphérique, c'est un film dont on ne parle pas souvent. C'est un de ses très, très bons films. Alors, La vie et rien d'autre, c'est un des meilleurs films sur la Première Guerre mondiale. Mmh. C'est un immense artiste qui nous quitte.
Oui. Merci pour cet hommage, Nancy Houston. Merci beaucoup. On termine avec un titre numéro 1 dans un pays membre de l'OIF. Aujourd'hui, on écoute le chanteur Tairo Costa, qui est numéro 1 en ce moment au Cap-Vert.
Na manhã, mano, tá cela, nós cadeado na Paris. Canta um puta, puxa a boca na Dakar. Mano, os filhos tá bem choma, bubacar. Dá aquele proteção na nós, amor. A mim tá mal de coração, oi. A mim tá mal de coração, oi. Buflamos tá dana comigo. Buflamos tá babo caminho. Buflamos de alcance de mim. Rimo a farto desvida ali. Ana de meu cabo vai não. Cabo vai não. A mim tá mal de coração. Oi. A mim tá mal de coração. Oi.
Lembra de nos viagem pra Singapura outro ano. Lembra de tudo, nos conversa de tudo, nos plano. Lembra. Lembra, 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 lembra. Canto peso, um provou na cara, uma boquinha membra. Lembra, já não vence, tio tempestade. Com chubinha, com vento, que se não estraga a nossa cidade. És pequena, dá estágio pra mim, amor de verdade. Contendo um tipo, eu sei, um tamor sem folga, sem recreio, minha baby. Amor, quem é a prioridade? Goce, minha coração, sou culpado. Boquinha, acusa, fosse. Deus te abençoe, ajusta, toca, trombeta. Deu o dedo, um pouco anelo, viaja pra nós.
Buflamos te dana comigo, buflamos te babo caminho, buflamo de alcance de mim, rimo se farto desvida ali. Buflamos te dana comigo, buflamos te babo caminho, buflamo de alcance de mim, rimo se farto desvida ali.
Un extrait de Nana Dimeou de Tairo Costa, numéro 1 en ce moment au Cap-Vert. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, Stéphane Combe et Pauline Laverdure à la technique. À la rédaction, Jean-Philippe Verret avec Christophe Magère et Estelle Gap en France. Nicolas Julliard et Sophie Gricoucho en Suisse. René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique. Jacqueline Castonguet et Elsa Pépin au Canada. Thierry Dupin était à la prog musicale. Le grand voyage continue la semaine prochaine. Nous parlerons notamment d'Aimé Césaire en duplex depuis la Martinique avec Marie-José Ali. Merci beaucoup pour votre fidélité. Bon week-end à tous. On quitte la multidiffusion pour se retrouver sur France Inter uniquement. N'oubliez pas la rediffusion à 1h du matin avec le bonus créole de Nancy Houston. Dans un instant, Daniel Fievé et son bivouac avec l'écrivain marcheur Antoine Debac.